Le ver luisant. Est-il rien de plus hideux qu'un ver de terre? Ce mot symbolise la corruption du sépulcre. Il exprime le dernier degré de la faiblesse et de l'indignité. L'autre soir, cependant, par une belle nuit d'août, j'ai vu scintiller dans une touffe d'herbe au pied des grands arbres noirs une petite lampe phosphorescente. Rien ne saurait rendre l'éclat particulier qu'elle projetait. Cette lumière n'avait rien de terrestre, on eût dit une émeraude animée. Nous nous penchâmes, c'était un ver luisant. Placé sur notre main, il ne s'éteignit point. Il répandait jusqu'à un mètre ou deux une clarté très appréciable dans les ténèbres de la forêt. Finalement, après l'avoir admiré, nous le déposâmes au bord de la route, où il continua de luire. « Remets la mouche à feu dans le buisson où tu l'as prise », dit le proverbe indien. L'auditeur s'étonnera peut-être que j'offre un pareil sujet à ses réflexions. Des vers luisants, qui n'en a vu? Voilà un bien grand miracle, en vérité. Oui, c'est un grand miracle si vous donnez à ce mot son vrai sens, car c'est un signe de la puissance et de la bonté du Dieu créateur. Dans le vers luisant, dans la mouche à feu, éclate la vérité des paroles évangéliques. Dieu élève ce qui est abaissé. Il fait grâce aux humbles, il se sert des faibles pour humilier les forts. Par les nuits voilées, l'Indien d'Amérique se sert de ces insectes lumineux pour éclairer sa route. Au Mexique, dit-on, les grandes dames, dédaigneuses des vulgaires diamants, ornent leurs chevelures d'insectes phosphorescents, emprisonnés dans une gaze transparente. On assure que l'effet produit par ces joyaux vivants est prestigieux. Ainsi, l'être le plus infime éclaire l'homme sur sa route, part la femme pour les fêtes mondaines, et ni l'un ni l'autre, peut-être, ne voit quel soufflet reçoit leur orgueil ou leur vanité. Quel encouragement pour ceux de nous qui se sentent peu de chose, et se demandent à quoi ils sont utiles dans la vie. Le ver de terre devient étoile. Et vous, mon frère, pourquoi n'auriez-vous pas aussi votre rayonnement? Croyez-moi, tous les êtres ont leur minute de beauté, de fécondité, de gloire. Il leur suffit d'obéir aux lois de leur vraie nature. Votre heure viendra si vous vous soumettez à la loi de Dieu, et cette heure sera éternelle. Ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Impossible de ne pas se rappeler l'exclamation douloureuse du Messie dans le psaume prophétique « Mais moi, je suis un ver et non point un homme. » À quel moment parle-t-il ainsi? C'est au moment où il est rejeté par le peuple, cloué sur la croix, écrasé par la souffrance. Et c'est justement alors qu'il devient la lumière du monde, lumière dont l'éclat va grandissant et atteint aux extrémités de la terre. La clarté qu'émet le ver luisant laisse dans l'ombre son pauvre corps informe et incolore. Vous ne voyez pas d'où elle émane. Il faut vous pencher, prendre la chose en main, pour voir enfin la petite masse noire d'où jaillit cette phosphorescence. L'astronomie nous apprend qu'à l'autre extrémité des choses créées, le soleil, ce corps infiniment grand, ressemble au ver infiniment petit. Il se compose d'un globe ténébreux, entouré d'un vêtement de flamme. En haut comme en bas, c'est la même leçon d'effacement et d'humilité. La lumière du ver luisant est émise du dedans au dehors. Il ne l'emprunte pas à son milieu. Au contraire, il ne luit que lorsque tout est noir. D'où vient cette splendeur royale au pauvre ver couleur de glaise? Non, certes, de la matière dont il se nourrit. Pourtant, cette lumière n'est point fantastique, elle est bien matérielle, mais d'une matière impondérable, que les instruments les plus délicats ne peuvent ni peser ni analyser, matière sublimisée par un procédé qui est le secret de Dieu seul, en sorte que le ver aussi pourrait dire « Je brille, non pas moi pourtant, mais la lumière de Dieu qui rayonne de moi. » Le Dieu qui tire ainsi sa gloire d'un ver de terre et transforme sous nos yeux, dès ce monde imparfait, la matière la plus vile en substance éthérée, ce même Dieu, par sa parole, qui vit et demeure éternellement, et qui est la vie et la lumière des hommes, principe de toute naissance et de toute renaissance. Ce Dieu, dis-je, peut transformer dès ce monde la plus misérable des créatures humaines en un être de beauté céleste. Il l'a fait par son évangile, où éclate la splendeur du Christ en son abaissement. Zachée, le péager, la femme samaritaine, Madeleine, le larron converti, le bourreau Saul de Tarse et tant d'autres, que furent-ils? Des vers brillants par la grâce de Dieu. Et le croyant qui lit ces lignes, comme celui qui les écrit, n'ont-ils pas été transformés par la grâce qui, sans anéantir encore le vieil homme, l'enveloppe pourtant et le fait disparaître sous un vêtement de lumière? Un mot maintenant à l'adresse de ceux qui n'ont pas encore cru au crucifié. Vous ne sauriez pas distinguer en plein jour le ver qui brillera ce soir du ver qui ne brillera jamais, car tous ne sont pas lumineux, et la lumière est leur seule différence. Ainsi, dans la vie ordinaire, on ne distingue pas toujours le vrai chrétien du formaliste, l'homme régénéré de l'honnête homme irrégénéré. Mais vienne la nuit, je veux dire le deuil, la maladie, la mort, alors paraît la beauté de la vie chrétienne. Vers de terre les uns et les autres, de quelle famille sommes-nous? De ceux qui luisent et brilleront éternellement, ou de ceux qui sont ténébreux et le seront toujours? C'est de nous que cela dépend. Un regard vers Jésus, un regard de foi, de repentance et d'amour, et voilà le grand miracle accompli. Cette conversion merveilleuse n'est pas le dernier mot de la grâce. L'Écriture nous apprend qu'un jour, la substance même de nos corps sera transmuée, deviendra lumineuse et diaphane, pareille au corps du Christ montant au ciel aux yeux de ses disciples, ou à ceux de Moïse ou d'Élie sur la montagne de la Transfiguration. Impossible ? Qu'y a-t-il donc de plus incroyable dans cette promesse que dans le fait du ver qui, chaque soir en été, se fait une robe de feu ? Une dernière remarque. Le ver de terre devient lumineux en vertu de la loi sublime de l'amour. La nature a voulu illuminer ainsi la fête nuptiale du pauvre insecte. À d'autres êtres chétifs, certaines fourmis par exemple, elles donnent des ailes à ce moment sacré. Et c'est aussi l'amour, mais combien supérieur à celui qui n'est qu'un instinct de la nature, qui transforme l'être humain, comme je viens de le dire. Quand l'amour qui brille au calvaire s'allume en nous, nous sommes créés de nouveau à l'image de Dieu, pour les bonnes œuvres, et cet amour-là dure plus d'une heure, plus d'un été, plus que la vie présente, car il est la vie éternelle.